Dans ce temps de vacances, j'ai pu me reposer, j'ai pu lire, et il y a deux textes qui m'ont été interpellés et je voulais vous partager ce matin. J'ai vu un certain parallèle entre ces deux textes. Il y en a un dans l'Ancien Testament et il y en a un dans le Nouveau Testament. Ce matin, on va parler de la foi, de comment mettre notre foi en action. Donc souvent, c'est vrai qu'on parle de la foi, on dit qu'on a besoin d'avoir la foi pour croire en Dieu, pour pouvoir avancer. Mais souvent, des fois, nous allons voir que nous avons une foi dans la croyance en Dieu, dans le cheminement avec Dieu. Mais souvent, des fois, Dieu nous demande de mettre cette foi en action. Et nous allons voir à travers ces récits, qu'est-ce que ces récits vont nous dire aujourd'hui pour mettre notre foi en action, pour voir Dieu agir, pour voir les miracles, les guérisons, les bontés de Dieu se déverser sur nous. Donc, ouvrons notre Bible. Ouvrons notre Bible dans 2 Rois 5. Donc, prochain dia, 2 Rois 5, où on retrouve la guérison de Naaman. Donc, Naaman, c'est un général en chef de l'armée du roi de Syrie. Alors, vous allez voir pourquoi que on va parler de ce roi de Syrie. Mais, on va voir que Dieu va utiliser même des personnes étrangères de son peuple pour pouvoir le bénir. Tout d'abord, on pourrait se poser la question, mais pourquoi qu'une telle histoire dans l'Ancien Testament? Pourquoi ce personnage n'est pas du peuple israélien, de Israélite, n'est pas juif? Pourquoi que on met ce texte dans l'Ancien Testament? Et on peut lire dans 2 Rois chapitre 5 verset 1 qui dit: Naaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accorda toute sa faveur, car par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était atteint d'une maladie de peau rendant impur. Donc on sait que si on lit un peu tous les récits de l'Ancien Testament, qu'il y a eu beaucoup la guerre entre la Syrie, les Syriens et les Israélites. Et comment que souvent Dieu donna la victoire, beaucoup donnaient la victoire aux Israéliens, aux Juifs, par rapport à leurs ennemis, les Syriens. Mais c'est arrivé quelquefois que justement Dieu donna la victoire même aux Syriens, principalement à cause des péchés du peuple hébreu. Le peuple, Dieu avait dit, mais si vous me respectez, si vous m'adorez, si vous continuez de suivre mes règlements, mes lois, mes commandements, vous allez vivre dans un pays paisible, vous allez vivre en paix. Mais nous voyons tout au long de l'histoire, d'un roi, d'un juge, comment que le peuple souvent a désobéi. Et pour que le peuple puisse être changé, transformé, Dieu permettait que des fois, il y avait des adversaires, des ennemis qui pouvaient les envahir et gagner sur eux. Donc on voit que Dieu ne s'intéresse pas juste à son peuple. On pourrait dire, oui, mais Dieu a son peuple, le peuple israélien qui est là, c'est son peuple, il veut le bénir, puis tous les autres, il veut les maudire ou il veut rendre la vie difficile. Mais on voit que même des gens en dehors du peuple juif, Dieu voulait aussi les bénir. Dieu voulait aussi leur accorder sa grâce et sa bonté. Aujourd'hui encore, Dieu peut donner sa grâce et sa bonté à n'importe qui. Dieu n'a pas juste le privilège de donner sa bonté aux chrétiens. Oui, il va le faire parce que nous le suivons, parce que nous voulons aller de l'avant avec lui. Mais Dieu s'intéresse à chacun. Dieu a créé le monde, Dieu a créé tous les humains et il veut que tous les humains puissent trouver la grâce et le salut. Voilà pourquoi qu'il veut encore donner ses bontés à n'importe quelle personne. Donc dans ce récit de roi, on voit que c'est le prophète Élisée, donc c'est le successeur d'Élie. Si vous lisez un peu des récits auparavant, vous voyez que Élisée a fait énormément de miracles, a fait beaucoup de guérisons, beaucoup de choses incroyables. Des choses vraiment comment que des miracles qu'on ne voit pas partout ailleurs. Et là, on va voir que justement, lui, il agit d'une façon différente par rapport aux autres prophètes. Donc cette fois-ci, Naaman se présente parce qu'il a entendu. Il a entendu parce qu'une jeune fille qu'il avait pris comme esclave depuis Israël servait justement ce général et il lui a dit, mais écoute, si tu vas en Israël, tu vas voir qu'il y a un homme de Dieu qui peut te guérir. Et Naaman donc a été parlé à un roi puis dit, mais écoute, fais-moi partir pour que je puisse aller voir cet homme pour que je puisse être guéri. Et voilà que Naaman arrive chez Élisée avec rempli de cadeaux. Et qu'est-ce que Élisée va dire? Regardez chapitre 5, versets 11 et 12. Lisons ensemble, versets 11 et 12. Élisée ne s'est pas présenté devant lui. Il a juste dit par l'intermédiaire de son serviteur, « Va te plonger sept fois dans le Jourdain. » Juste cela. Et voici la réaction de Naaman, versets 11 et 12. « Naaman se mit en colère et s'en alla en disant, « Je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel, son Dieu, pour qu'il passerait sa main sur ma partie malade et je me guérirais de ma maladie de la peau. » Verset 12, les fleuves de Damas, l'Arma et le Papar, ne va-t-il pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié? Il fit donc demi-tour et partit furieux. Imaginez donc, cet homme a fait des centaines de kilomètres pour se déplacer. Et c'est vrai qu'en tant que général, ben, généralement, on vient devant avec estime, avec respect. Et lui s'attendait à ce que, comme tous les autres, personnes qui se présentent devant lui se mettent à genoux ou bien se présentent, mais au moins qu'ils viennent, au moins se présenter à lui, qu'il le touche, qu'il invoque le nom du Seigneur. Rien de cela. Élisée, depuis chez lui, a dit à son serviteur, va lui dire, plonge-toi cette fois dans le Jourdain. C'était un véritable affront pour ce dignitaire de son rang, de ne pas avoir eu l'occasion de voir le prophète, de voir l'homme de Dieu devant lui. Donc, Naaman avait une certaine façon de voir les choses. Il pensait que justement, que le fait que le prophète vienne vers lui, que le prophète impose ses mains sur lui, que le prophète prie pour lui, qu'il allait être guéri de cette façon-là. Et on voit encore aussi le mépris encore même de cet homme par rapport à Israël, hein, qui dit, hein, les fleuves de Damas, pourquoi l'eau est meilleure même à Damas que peut-être dans le Jourdain? Donc, il montre son dédain même d'Israël, du peuple de Dieu. Rien de ce qu'il avait prévu ne se passa comme il voulait. Et il part fâché en colère. Souvent, des fois, en tant que personne, on peut avoir cette même attitude que Naaman. Dans le sens que on demande au Seigneur des choses, on demande au Seigneur, donne-moi ce miracle, guéris-moi de telle maladie, fais-moi telle chose dans ma vie, j'ai besoin et comme ça. Et les choses ne se passent pas comme on veut et on part en colère. Bon. Peut-être qu'on n'est pas vraiment en colère en Dieu, on dit, oh non, non, Seigneur, je ne suis pas content, mais au fond de nous, on est en colère. Au fond de nous, on n'est pas content. On n'est pas content parce que Dieu n'a pas réalisé comme on voulait que les choses se fassent. C'est justement pour cela qu'Élisée ne s'est pas présenté devant Naaman. Cet homme, Naaman, le général, était un homme orgueilleux, qui a bien reçu dans sa vie, qui méprise les autres. Élisée veut lui démontrer que Dieu peut le guérir, mais non selon les règles de Naaman, mais selon les règles de Dieu. Et c'est là que justement Dieu intervient pour nous dire d'avoir la foi, de lui faire confiance qu'il sait exactement ce qu'il avait besoin pour être guéri et comment les choses doivent se passer. La foi se réalise lorsque nous la mettons en pratique, lorsque nous voulons faire quelque chose qui n'est pas prévu, qui sort de l'ordinaire. Quelque chose d'invraisemblable. Si ce serait tellement facile, on n'aurait pas besoin de foi. Si on demanderait à Dieu, puis que Dieu exaucerait directement nos prières comme on voudrait, on n'arriverait pas à développer notre foi. Et c'est vrai que c'est quelque chose de difficile de dire, mais pourquoi aller plonger cette fois dans le Jourdain? Prochain dia, si nous poursuivons un peu l'histoire, on voit que donc ce général part fâché, mais les serviteurs, eux, ont plus de foi que lui. Ils savent, hein, comment il est, son caractère, son tempérament, comment qu'il est orgueilleux, comment qu'il est fier de lui. Et ils vont oser de lui parler pour essayer de le raisonner. Regardez dans le verset 13. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour le dire, Maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne l'aurais fait-tu pas? À plus forte raison devrais-tu faire ce qu'il t'a dit. S'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié. Ses serviteurs ont plus de foi que ce général, en lui disant d'essayer quand même de faire ce que le prophète lui demande. Dites-moi, qu'est-ce qui est difficile pour aller plonger cette fois dans une rivière? Rien, il n'y a rien de difficile, sauf que pour Naaman, ça n'avait pas de sens. Pourquoi le faire? C'est vrai qu'on pourrait peut-être voir une similitude, le fait de plonger dans l'eau, dans le sens de l'état de purification, hein? Il devait se plonger sept fois pour être purifié. Nous savons que lorsqu'on fait le baptême devant Dieu, lorsqu'on se consacre à Dieu, nous passons par les eaux du baptême et nous plongeons dans l'eau pour être purifiés de nos péchés, de notre ancienne vie, pour pouvoir avoir une nouveauté de vie avec le Seigneur. Nous savons que le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre par excellence de Dieu. Donc c'est possible que Dieu va nous demander un jour de faire quelque chose qui n'a pas de sens pour nous, qui sort de l'ordinaire. Mais c'est là que Dieu veut que nous puissions lui obéir. La foi ne se mesure pas lorsque nous faisons juste des choses impossibles aux hommes. Mais c'est là qu'on voit justement que notre foi va intervenir. Quand il y a des choses qui sont impossibles aux yeux des hommes, mais même des choses complètement peu qui sortent de l'ordinaire, c'est là qu'on voit la foi où va se mesurer. La foi se mesure aussi dans les choses très simples, mais qui demandent quand même un pas de foi. C'était très simple de plonger cette fois. Mais pour Naaman, il pensait que ce n'était pas cela comment que Dieu allait le guérir. C'est lorsque nous voyons dans des moments, même ordinaires, où Dieu nous demande des choses, où Dieu nous fait dire des choses, où Dieu nous guérit d'une certaine façon, c'est là que notre foi est réelle. Elle ne s'appuie pas sur des raisonnements, elle ne s'appuie pas sur des compréhensions ou sur ce que nous avons nous, mais uniquement sur la foi en Dieu. Dieu nous dit quelque chose, nous lui obéissons par la foi, même si nous trouvons que ça n'a pas de sens, même si nous trouvons qu'on pourrait le faire différemment. Prochain diable, c'est quoi le résultat? On le voit dans le verset 14. Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa sept fois, comme l'homme de Dieu lui avait ordonné, et sa chair redevient nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Imaginez cet homme qui plonge dans l'eau, il ne voulait pas, hein? Plonge dans l'eau une fois, deux fois, trois fois. Bon, mais écoute, pourquoi cette fois? Pourquoi cette fois? Ok, les serviteurs devaient dire, allez, vas-y, vas-y, continue, continue encore, tu as encore besoin. Quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois avant de voir le miracle se produire. Je crois que dans ce temps de sept fois, ce que Élisée voulait dire à travers cette façon, c'est de pouvoir faire changer cet homme. Cet homme était orgueilleux, fier de lui, et il avait besoin de voir que Dieu voulait travailler son cœur. Et je crois que fur et à mesure qu'il plongeait dans l'eau, son cœur changeait, son attitude changeait aussi, et Dieu pouvait faire une œuvre aussi en lui. Et on va le revoir dans le verset 15. Regardez le verset 15. Il revint vers l'homme de Dieu avec toute son escorte. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta en lui disant, voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Le fait qu'il a plongé sept fois dans l'eau a permis de reconnaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Cet homme adorait toutes sortes de dieux, parce qu'on va le voir tout à l'heure, dans son pays. Mais là, il a reconnu qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui pouvait faire cela. Voilà pourquoi que souvent Dieu nous demande ce pas de foi, pour qu'on puisse reconnaître. Ce n'est pas nous, ce n'est pas notre obéissance, ce n'est pas nos valeurs, ce n'est pas parce que notre personne, que nous sommes un bon chrétien, que nous faisons des bonnes choses, que nous méritons d'avoir ce miracle ou de la guérison de Dieu. Dieu ne veut pas simplement nous guérir physiquement. Il veut que cette guérison soit complète. Il veut que notre cœur puisse être aussi changé, transformé aussi. Il veut que nous puissions reconnaître que Dieu est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Donc Dieu peut faire un miracle dans notre vie, mais il désire que nous puissions aller plus loin de ce qu'il accomplit pour nous. Il veut qu'on puisse reconnaître sa majesté. Il veut qu'on reconnaisse sa puissance et ainsi de le suivre pour l'honorer et le louer. Et Naaman, justement, l'a compris. Parce que regardez qu'est-ce qu'il va dire au verset 18 et 19, prochain dia. Il va demander que même l'Éternel pardonne lorsqu'il se prosterne devant une idole avec son roi. Imaginez. Imaginez la foi que cet homme maintenant a découvert. Verset 18-19, il dit, seulement que l'Éternel veuille me pardonner la chose suivante. Quand mon souverain se rend dans le temple du dieu Rimmon pour se prosterner, je dois me prosterner en même temps que lui car il s'appuie sur mon bras. Que l'Éternel pardonne donc ce geste à son serviteur. Élisée lui dit, va en paix. Imaginez que lui, il doit accompagner le roi dans sa prosterne, pour prosterner devant ses dieux. Et il dit, ben, à l'avenir, comme je suis un dignitaire, je suis obligé de suivre le roi. Mais permets que lorsque je dois m'agenouiller, ce soit pas, je puisse m'agenouiller devant Dieu, mais pas devant cette idole. Que Dieu me pardonne de le faire, parce que je dois obéir au roi, parce que c'est ma vie qui en dépend. Et Élisée, il a dit, va en paix. Ce verset ne nous dit pas que nous pouvons demander le pardon de Dieu en continuant de faire des choses contraires à Dieu, d'adorer d'autres idoles tout en voulant respecter Dieu. On sait que Naaman, s'il ne le faisait pas, ben, il allait mourir, parce qu'il fallait suivre les règlements du roi. Mais Dieu voit les circonstances et il est prêt à pardonner s'il voit que le cœur est sincère. Rappelez-vous de David, hein? David, à un moment donné, il fuit devant Saül avec toute sa troupe. Et à un moment donné, il a faim. Ils ont faim parce qu'il doit se cacher. Et il va vers un des prêtres pour dire, ben, donne-nous les pains qui sont prévus pour l'offrande, pour Dieu. Selon la loi, ces pains étaient pour Dieu, étaient ensuite aussi pour les prêtres, mais ils ne devaient pas être donnés pour d'autres personnes. Et le prêtre a donné ces pains à David et à tous ses guerriers. Et Dieu pardonna même ce geste. Donc Dieu est prêt à pardonner s'il voit que nous sommes sincères dans notre démarche avec lui, parce qu'il est un Dieu plein de grâce et de pardon. Prochain dialogue, la deuxième histoire, c'est dans Luc 17. Ouvrons notre Bible dans Luc 17, versets 11 et 19. On va voir que c'est aussi un récit de guérison aussi de la lèpre. Et on va voir la réaction de ce que Jésus va dire à ses lépreux. Donc, chapitre 17, versets 11 à 19. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier à haute voix. Jésus, maître, aie pitié de nous. Jésus les vit et leur dit, allez vous montrer aux prêtres pendant qu'ils y allaient. Ils furent guéris. L'un d'eux, quand il se rendit compte qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à pleine voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, ils sont bien 10 qui ont été guéris, n'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? Prochain dia. Verset 18. Il ne s'est donc trouvé personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Puis s'adressant à ce Samaritain, il lui dit, relève-toi et va, parce que tu as eu la foi en moi, tu es sauvé. Prochain dia. Dans cette histoire, on voit 10 lépreux qui demandent à Jésus d'être guéris. Ces personnes ne pouvaient pas approcher Jésus parce qu'ils avaient la lèpre. Et lorsqu'on avait la lèpre, on était comme mis de côté. Des personnes qui avaient une belle notoriété, une belle situation, ils avaient la lèpre, ils étaient obligés de quitter le village, la ville, et de se trouver dans un endroit perdu avec tous les autres malades. Du jour au lendemain, des personnes, leur vie était bousculée à cause de la lèpre, à cause de leur maladie. Donc peut-être ces lépreux avaient entendu que Jésus guérissait. Et voilà pourquoi qu'ils veulent s'approcher, mais à distance ils ont peur, et à distance ils crient, Jésus, aie pitié de nous, guéris-nous. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus va simplement leur dire d'aller se montrer aux prêtres. Allez vous montrer aux prêtres. Donc les gens savaient que lorsqu'on avait une maladie, et surtout la lèpre, pour pouvoir être guéri, quand on était guéri, on devait aller se présenter devant le prêtre qui nous confirmait qu'on était guéri. Tant qu'on n'avait pas fait cette démarche, on ne pouvait pas revenir dans le village, pas revenir dans la famille, auprès de nos, de nos, de notre famille. Mais de la part de Jésus, pas plus de mots. Comment Jésus ne leur a pas dit, ben, en cours de route, vous allez guérir. C'est sûr que ces lépreux avaient entendu parler que Jésus guérissait, qu'il avait guéri d'autres lépreux, qu'il avait posé la main sur eux, qu'il avait fait une prière. Mais là, rien du tout, il dit simplement, allez vous présenter au prêtre. Comment vous sentirez dans cette situation? Encore une fois, on voit que ces personnes s'attendent à être guéries, s'attendent à avoir quelque chose de la part de Jésus. Et Jésus va simplement leur dire, allez, allez vers votre prêtre, allez vers le prêtre. On pourrait se dire, mais Seigneur, je m'attendais un peu plus d'amour de ta part. J'attendais que tu viennes vers moi, que tu m'encourages, que tu me réconfortes, que tu me donnes des bonnes paroles, que tu poses la main sur mes plaies. Rien de cela. Des fois, dans nos situations, on est la même chose. Seigneur, donne-nous plus d'instructions de ce qui va se passer. Oui, Seigneur, je veux te suivre par la foi, mais donne-moi plus de détails. Comment que les choses vont se faire? Comment que les choses vont se réaliser? Mais simplement, va. Comme l'a dit aussi notre fille Déborah, va faire cette école de disciples. Elle ne connaît pas grand-chose de cette école. Elle est même très inquiète par rapport à beaucoup de choses parce que c'est un changement beaucoup radical pour elle. Elle n'a pas reçu beaucoup d'instructions, mais elle veut aller par la foi. Je me rappelle au début de notre ministère ici, il y a plus de 27 ans ici au Québec, que le Seigneur nous avait dit d'aller à Montréal, mais on n'avait pas beaucoup d'instructions. On connaissait qu'on allait suivre une école de formation pendant 2 ans, mais on ne savait pas où on allait habiter. Et quelle était notre surprise que lorsqu'on est arrivé ici, on nous a trouvé un appartement en plein dans le village gay. Si moi j'aurais su ça avant, je ne serais jamais parti. Le Seigneur le savait. Mais on est venu par la foi. Et on a pu découvrir comment le Seigneur nous a bénis. Nous sommes partis avec un soutien financier. Pas beaucoup de moyens. Puis Dieu a pourvu jour après jour, mois après mois, des années durant, par différentes personnes, par différentes façons. Il ne nous a pas donné toutes les instructions, mais on était par la foi. J'ai pu voir comment que cet exemple ou ce que le Seigneur a fait dans notre vie a permis que je puisse développer ma foi, a permis de voir, de dire, lorsque le Seigneur dit « va », ok Seigneur, je vais, par la foi. Même si je n'ai pas toutes les instructions, même si je ne connais pas tout ce qui va arriver, je vais par la foi parce que c'est toi qui me dis d'aller. Et en cours de chemin, justement, par la foi, toute simple de ces lépreux, la guérison arrivée. Imaginez hein, les lépreux qui discutent. Ouais, mais Jésus, il aurait pu venir quand même vers nous. Puis, qu'est-ce qui va se passer? Ah, mais non, il nous dit d'aller vers le prêtre. Ouais, mais on ne peut pas aller vers le prêtre si on n'est pas guéri. Ouais, qu'est-ce qui va se passer? Non, mais continuons, il nous a dit une parole, allons-y. Et fur et à mesure qu'ils avançaient, fur et à mesure que leur pas de foi avançait, ils ont été guéris. Comme j'ai dit, tout au long de notre cheminement, encore aujourd'hui, je peux voir comment que les choses ont changé, bougé avec le Seigneur. Rarement, il m'a donné toutes les instructions. Mais si on marche par la foi, Dieu honore et Dieu accomplit de grandes choses. Dieu veut voir notre foi en action lorsqu'on marche avec lui. Il veut voir si nous sommes prêts à faire ce pas de foi avant que les choses se réalisent, avant de voir l'accomplissement de ce que Dieu nous demande de faire. C'est vrai que nous sommes à quelques semaines de la rentrée scolaire, hein, surtout pour nos jeunes, pour nos enfants. Mais aussi, on sait que c'est le retour un peu à la routine quotidienne, au début d'une nouvelle formation. Et on pourrait se dire, mais Seigneur, il y a beaucoup de choses nouvelles qui arrivent devant moi, je ne sais pas comment agir. Le Seigneur veut peut-être nous dire, ben va. Je te dis d'aller, va. Pose pas trop de questions, mais va par la foi. Et fur et à mesure que nous allons avancer, Dieu va concrétiser les choses. J'ai vu souvent dans ma vie des personnes qui demandaient de grandes choses pour le Seigneur, mais qui attendaient sur place que Dieu réalise les choses. Mais s'ils auraient pris le désir de marcher, de faire un pas, même dans l'inconnu, ils auraient pu voir les prodiges, ils auraient pu voir les miracles que Dieu avait prévus pour eux. Prochain diable, on le voit donc au verset 14, que pendant qu'ils allaient vers les prêtres, ils furent guéris. Imaginez la joie de ces personnes, d'être guéris d'une maladie qui les rendait impurs, loin de la société, rejetés par tous. Et là, on voit quelque chose de spécial. Un homme, un seul sur les 10, va revenir sur ses pas pour remercier Jésus de sa guérison. C'est vrai que les lépreux étaient tellement contents de pouvoir se présenter auprès de complètement guéris, purifiés, qu'ils avaient hâte de pouvoir y aller, afin que justement ces prêtres puissent authentifier leur guérison. Ils n'ont pas jugé bon de revenir remercier l'auteur de leur guérison. Il y a un autre détail qu'on voit dans le verset 15. Il est dit que cet homme qui est revenu, c'était un Samaritain. Ça, c'est vraiment le comble pour les Juifs. Que seule personne qui est revenue soit un Samaritain. Et même, on dit au verset 18 que Jésus va dire que le Samaritain est un étranger. On sait que le Samaritain, c'était justement un peuple qui avait été déporté à la place, justement, des Juifs pour pouvoir habiter le pays. Mais qui suivait les lois de Dieu, mais qui était toujours perçu comme différent. Il y avait toujours un peu cette guerre, cette tension entre les Samaritains et les Juifs. Cet homme qui vient d'être guéri voit que c'est le plus important d'attendre la confirmation de sa guérison, de revenir sur ses pas et de remercier l'auteur de sa guérison. Le lépreux revient pour louer Dieu, pour apporter toute sa reconnaissance. Voilà l'importance de ce que le Seigneur fait pour nous, d'avoir cette attitude de reconnaissance, de louange envers celui qui est pour nous. Même si on n'a pas encore tout reçu ce qu'il nous a promis, même si peut-être on n'a pas encore été béni ou guéri, il nous demande d'avoir cette attitude de reconnaissance, de louange. De cette façon-là, on reconnaît qui est Dieu, reconnaît qu'il est tout-puissant, qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur. Encore aujourd'hui, à chaque fois que nous faisons ce pas en avant, nous avons besoin de remercier notre Seigneur. À chaque fois qu'il nous dit « va », même si peut-être on n'a pas encore le résultat, de dire « Seigneur, je vais par la foi et je te remercie d'avance pour ce que tu vas faire pour moi, que tu vas faire pour ma famille, parce que je sais que tu es un grand Dieu, tu es un Dieu plein de bonté et de grâce pour chacun de nous. » Ce n'est pas seulement lorsque Jésus fait un miracle dans notre vie, qu'une bonne chose arrive dans notre vie, qu'on doit louer le Seigneur, qu'on doit reconnaître sa majesté. Mais en tout moment, en tout instant, même dans les temps les plus difficiles, le fait de lever les yeux, de louer le Seigneur, de reconnaître sa majesté, nous permet d'avancer, même dans les moments les plus difficiles. Prochain dia. Un autre aspect justement de ce lépreux qui revient sur ses pas, démontre que cet homme ne voulait plus que juste être guéri physiquement. Donc il revient pour remercier, reconnaître que Jésus-Christ est le Seigneur, son Messie. Et on le voit au verset 19. Lorsque Jésus le voit revenir, qu'est-ce qu'il va lui dire? Dans la deuxième partie du verset 19. « Parce que tu as eu foi en moi, tu es sauvé. » Jésus va lui dire qu'il n'est pas simplement guéri physiquement, mais qu'il est guéri spirituellement, c'est-à-dire qu'il est sauvé par grâce à cause de sa foi. Donc dans cette démarche de guérison, comme dans d'autres exemples qu'on peut voir de la part de Jésus, il y a l'aspect de la guérison physique ou du miracle. Mais Jésus ne veut pas simplement juste guérir ou faire un miracle physique, mais il veut donner l'aspect le plus important, c'est-à-dire la guérison du cœur, de l'âme, qui permet d'être sauvé. Rappelez-vous avec cette femme qui a eu des pertes de sang pendant 12 ans. Elle s'est dit, si je peux même juste toucher le vêtement, le bord du vêtement de Jésus, je vais être guérie. Elle avait une foi, elle a mis en action. Et lorsqu'elle a touché le vêtement, elle a été guérie. Et Jésus s'est retourné, il y avait une foule. Il a dit, qui m'a touché? Et cette femme est venue vers lui se présenter pour le remercier. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Va, t'es guérie et ta foi t'a sauvée. Jésus veut nous guérir pour nous rétablir dans notre santé physique, nous apporter sa grâce, nous donner quelque chose que nous ne méritons pas, que nous avons besoin pour aller de l'avant. Mais Jésus veut le faire avant tout, parce qu'il est bon, parce qu'il est plein de grâce, mais il veut avant tout pour nous sauver. Il veut qu'on comprenne que la guérison ou le miracle qu'il nous donne est le premier pas pour nous diriger vers la reconnaissance, pour ensuite être sauvé de nos péchés, pour hériter de la vie éternelle. Voilà ce que Jésus veut nous dire ce matin, que nous pouvons être guéris physiquement, mais pas connaître la guérison de l'âme et du péché. Les 9 autres lépreux ont été guéris physiquement, mais ils n'ont pas reçu le Seigneur dans leur vie, parce qu'ils n'ont pas reconnu le Seigneur comme leur Messie. Ils n'ont pas reconnu qu'il est de revenir, de le louer, de le remercier. Jésus veut encore faire des miracles encore aujourd'hui dans notre vie. mais il désire que nous puissions reconnaître qu'il est le Seigneur, le Sauveur, et que nous le louons pour cela. Que nous puissions, par notre attitude, par notre vie de tous les jours, démontrer qu'il est ce Seigneur de notre vie, qu'il est le Maître, et que nous pouvons le suivre dans l'obéissance. Alors pour terminer, prochain dia, on voit dans ces deux histoires, en parallèle, l'importance de la foi pour être guéri. Naaman a été changé, il est revenu vers Élisée pour remercier, pour reconnaître que le Dieu des cieux et de la terre était le seul Dieu. Le lépreux samaritain est revenu après d'avoir été guéri pour remercier Jésus-Christ d'avoir guéri. Et la foi de cet homme a permis qu'il soit sauvé aussi dans l'âme pour qu'il puisse rejoindre aussi, plus tard aussi, le Seigneur. On comprit que Dieu nous demande de mettre notre foi en action, même lorsque nous ne voyons pas clairement ce que le Seigneur veut pour nous. Lorsque les instructions de Dieu ne sont pas complètes, ce pas de foi est crucial et nous permet de rentrer dans le plan de Dieu qu'il a prévu pour nous. Comme Naaman, comme ce Samaritain, on doit reconnaître que c'est le Seigneur qui nous guérit, que c'est lui qui nous donne ses grâces, donne ses bénédictions, et on doit le remercier de le louer à tous les jours. Alors simplement, courbons notre tête maintenant. Et le Seigneur nous demande ce matin que nous avons une foi, oui, mais il désire que peut-être cette foi puisse se développer. Peut-être que dans ces prochains temps, il va vous demander de faire un pas de foi, par rapport peut-être à un nouveau travail, une nouvelle formation, de nouvelles études, peut-être à un nouveau ministère, un nouveau pas, changer quelque chose dans votre vie. Le Seigneur peut-être va vous dire simplement, va, va en avant. Alors, qu'est-ce que nous allons répondre à notre Seigneur? Est-ce que nous allons avoir cette attitude comme le Naaman au début, qui est furieux parce qu'il s'attendait à quelque chose de différent? Ou est-ce que nous allons, comme les 10 lépreux, marcher en avant pour voir la guérison, pour voir le miracle de Dieu se passer? Je crois qu'aussi que, en tant que chrétien et aussi en tant qu'Église, on doit faire ce pas de foi aussi pour cet automne, pour cette reprise, cette rentrée scolaire, pour aller de l'avant aussi par rapport à de rayonner de sa présence, de continuer de partager cette bonne nouvelle. Oui, c'est vrai qu'on a vécu des temps difficiles, il y a eu la pandémie, l'après-pandémie, il y a eu beaucoup d'essoufflement, découragement, il y a des personnes même qui sont quittées l'Église. Le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, va. Va. Et lorsque tu vas aller de l'avant, tu vas voir comment que mes projets se réaliseront. Tu vas voir comment que le miracle va se faire. Tu vas voir comment que ma guérison va se passer. Seigneur, on te remercie pour cet exemple, ces deux exemples que nous trouvons dans ta parole, qui nous montre comment que tu es plein de grâce, plein de bonté pour chacun de nous. Tu l'as fait pour Naaman, ce général qui ne faisait pas partie de ton peuple. Tu lui as donné sa grâce parce que tu voyais que cet homme pouvait être changé, transformé par toi. Tu l'as fait pour ce Samaritain qui était rejeté par tous. Tu veux le faire aussi pour chacun de nous aujourd'hui. Seigneur, on te remercie parce que c'est vrai que nous t'adorons, nous te louons, nous avons cette foi en toi, de croire en toi que tu es notre Seigneur, notre Sauveur, que tu nous as pardonné, que tu nous as purifié, que tu nous as permis de vivre une nouvelle vie avec toi. Et Seigneur, ce matin, tu nous demandes de faire un pas de foi de plus, de mettre cette foi en action. Seigneur, il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de raisonnements que nous pouvons avoir, qui nous empêche de faire ce pas. Permets ce matin que lorsque nous entendons ton ordre d'aller, lorsque tu nous donnes une instruction, même si elle n'est pas complète, d'aller par la foi, d'avancer. Seigneur, tu veux voir notre foi en action. Tu veux voir si on est prêt à se lancer avec toi, même dans l'inconnu, même dans les choses qui nous dépassent, les choses qui sont même des fois très ordinaires. Seigneur, permet que ces illustrations de ces deux exemples nous poussent aujourd'hui et dans ces prochains jours à te dire oui, je marche par la foi, je mets ma foi en action pour toi. Seigneur, je te prie pour chaque personne ici présente, que ce soit ici, en salle, que ce soit sur Zoom, sur YouTube. Tu connais leur cheminement, tu connais leurs défis, tu connais ce qu'ils te prient, ce qu'ils ont, ils ont demandé à toi dans leur prière. Je te prie que Seigneur, tu puisses leur donner tes instructions, que tu puisses leur donner ta force d'avancer, de marcher par la foi, d'avancer pour attendre ta guérison, pour attendre ton miracle, pour attendre le projet que tu as pour eux. Oui, Seigneur, donne-leur ce pas de foi nouvelle. Permets qu'ils puissent aller avec les yeux fixés sur toi, de marcher en avant. Sachant que, Seigneur, tu vas les seconder, tu vas les entourer. Et que, fur et à mesure, tu vas aussi les conduire sur le chemin que tu as tracé pour eux. Je te prie que, Seigneur, cette semaine, ils puissent réaliser comment que lorsqu'on marche par la foi, lorsqu'on marche en avant dans l'action, tu peux faire de grandes choses. Tu ouvres des portes que personne ne peut ouvrir. Alors, je te prie de les bénir, de les encourager, chacun d'eux, et aussi moi-même, afin que nous puissions continuer de t'adorer et te louer, que nous puissions reconnaître jour après jour, ta grandeur, ta reconnaissance, qu'on puisse être reconnaissant de tout ce que tu es, de tout ce que tu nous donnes. Merci Seigneur parce que tu ne nous lâches pas seul, tu es à côté de nous. Merci parce que tu nous donnes ta force, tu nous donnes ta confiance pour avancer. Et nous voulons continuer de proclamer que tu es le seul roi, que tu es le seul Dieu sur cette terre. Et qu'en toi seul, nous voulons mettre notre confiance, qu'en toi seul, nous voulons mettre notre vie, notre foi, pour avancer avec toi. Nous te remercions et te louons parce que tu es grand, tu es bon, et que tu fais de grandes choses pour chacun de nous. Nous te prions ça dans ton beau nom, Seigneur Jésus. Amen.